France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Chaque mois, nous épluchons pour vous le meilleur de l'actualité scientifique. En ce mois d'avril, que trouve-t-on dans les pages de nos camarades de la presse écrite ? Au XXe siècle, un scientifique russe a écrit « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau ». Mais alors, où iraient vivre les premiers terriens expatriés ? À quoi ressemblerait un monde où il ferait 4 degrés de plus, ce qui pourrait arriver d'ici 2100 si rien ne change ? Les neurosciences peuvent-elles percer les secrets de cet instant Eureka, cette étincelle de lucidité qui illumine nos esprits ? Et enfin, quel défi pose l'étude des trous noirs ? Autant de questions qui animent l'actualité scientifique. Cosmos, climat et Eureka, au clair de la une. Et Élodie Chabrol, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes neuroscientifique, communicatrice et vulgarisatrice scientifique, fondatrice de la branche française du festival Pint of Science et la directrice internationale depuis 2017.
Tout à fait.
Et Audrey Garrig, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes journaliste au service Planète, chargée des questions sur le climat et rédactrice pour le journal Le Monde. Philippe Pageot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de La Recherche. Et Guillaume Langin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique pour Ciel et Espace. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être à l'écoute en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous toutes nos ressources. C'est sur notre compte @sciencecqfd. On commence avec notre premier sujet du jour. Vivre ailleurs, oui, mais où ? La question est déjà posée en 1952.
Les probabilités de vie dans d'autres univers nous apparaissent plus grandes que naguère, puisque nous avons multiplié le nombre des planètes où les conditions favorables à l'éclosion de la vie sont possibles. Et si on doit formuler une conclusion après une telle intégrale d'hypothèses, je me permettrai d'être très optimiste et de voir l'homme peut-être unique créature pensante dans la totalité de l'univers. Cet homme, là de la Terre, cherche de nouvelles conquêtes. Et que va-t-il faire ? Il va chercher, grâce à ses astronomes, à ses astrophysiciens, les astres qu'il peut coloniser, ceux où se trouvent réalisées des conditions meilleur que sur Mars, car après avoir entendu le professeur Becquerel, on se rend bien compte que sur cette petite planète, les conditions ne sont pas idéales. Donc, nos astronomes, nos astrophysiciens vont chercher ces astres. Ils les découvriront. Et alors, à ce moment-là, les fusées interplanétaires partiront de toutes parts et l'homme ira coloniser non plus de nouveaux continents, mais de nouvelles planètes.
Voilà un extrait de l'émission Le Roman de la Science, diffusée sur la RDF. Guillaume Langin, depuis 1952, la probabilité d'aller vivre ailleurs, c'est une probabilité encore plus forte aujourd'hui, au XXIe siècle ?
Je dirais que plutôt non. À chaque époque, ces biais de modernité, on a des époques qui sont plus emplies d'espoir d'aller explorer loin. Alors, si on fait suite à une révélation, une découverte d'une multitude de mondes, comme cet extrait le montre, d'ailleurs, avec une quarantaine d'années d'avance, parce que les premières exoplanètes dont on a la preuve par l'observation, c'est les années 90. Il subsistait un doute que les autres étoiles étaient elles aussi entourées de planètes, aussi nombreuses puissent-elles être. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt dans une époque où on se recentre un peu sur la Terre. On a des défis, l'humanité a certains défis qui sont beaucoup plus locaux. Celui de réussir à vivre dans un monde avec une neutralité carbone d'ici 2050, par exemple. Donc ça jette un petit peu un frein à l'exploration d'ailleurs. Mais certaines personnes continuent à s'autoriser. Et tout dépend en fait de comment vous vous projetez ailleurs. Est-ce que c'est envoyer 3 explorateurs aventuriers qui vont en apprendre plus sur la Lune, Mars et vous rapporter ces souvenirs-là ? Ou est-ce que c'est vous projeter sous la forme de la première mégalopole martienne d'1 million d'habitants ? Voilà, certaines choses sont plus ou moins crédibles que d'autres selon les époques.
Alors pour le 600e numéro de Ciel et Espace, joyeux anniversaire,
merci.
Vous publiez justement ce dossier spécial. Si nous devions quitter la Terre, si, où irons-nous vivre? On n'a pas... Quelles sont nos options? Vous commencez par une première option à explorer, c'est celle de la Lune. La Lune comme pied à terre.
Un numéro 600, comme vous l'avez dit, j'en profite pour saluer la rédaction de Ciel et Espace. C'est un titre qui existe depuis 1970. Ça a commencé au numéro 116. Avant cela, c'était Ciel et Fusée. Et encore avant, c'était Le Ciel et Le Ciel Normand. Donc, 600 numéros. On a fait ce dossier un petit peu différent des autres parce que c'est un numéro un petit peu collector. Un dossier un peu détaché de l'actualité court-termiste, prenant un peu du recul, sans trop se poser la question de est-ce qu'il serait possible ou non d'aller habiter sur la Lune, d'aller habiter sur Mars, on va jusqu'à Vénus, Mercure, Titan et même Proxima du Centaure B, l'exoplanète la plus proche, sans trop se poser la question de est-ce que c'est faisable techniquement, là, aujourd'hui, mais plutôt à quoi pourrait ressembler la vie pour les personnes qui iraient là-bas et en apprendre en passant sur les propriétés de ces planètes et de ces astéroïdes. Alors vous m'avez posé la question de la Lune. La Lune, on le connaît, cet astre, c'est le plus proche, 380 000 km de distance, pas de bouclier magnétique, pas d'atmosphère, pas d'eau à part à certains endroits particuliers, et notamment le pôle sud de la Lune, déjà qui restreint beaucoup la surface géographique où s'installer si on a besoin d'eau pour vivre, ce qui est quand même le cas des humains, le propre des humains. Et si je devais décrire un petit peu à quoi pourrait ressembler la vie sur ce monde-là en une phrase, elle serait souterraine, selon toute vraisemblance, parce qu'il faut pouvoir se protéger justement des radiations, des bouffées de particules émanant du soleil, qui sont délétères pour la santé humaine et même pour la vie en général. Donc, bénéficier de tunnels de lave, en fait, la Lune a ça à offrir, des tunnels de lave particulièrement amples dans leur hauteur sous plafond, je dirais, parce que la pesanteur est très faible, et donc ces structures-là sont... par voie de conséquence, plus ample, plus grande. Donc on pourrait imaginer que les bases un petit peu long-termistes de la Lune soient souterraines, sous des grandes voûtes de régolithes lunaires.
Et c'est en effet ce qu'envisagent les ingénieurs de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On a aussi donc le programme Artemis qui prévoit des installations sur la Lune d'ici une dizaine d'années. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à se procurer deux choses. D'ailleurs, un podcast, une série de podcasts à se glisser dans les oreilles avec notre série « On va s'installer sur la Lune ». Et puis, pour être encore plus dans le détail, il y a aussi le fabuleux roman de Catherine Dufour, Les champs de la Lune, qui imagine tout ça. Autre option envisagée dans votre revue ce mois-ci, il y a tout un tas de planètes de notre système solaire qui sont envisagées comme ça, passées en revue. Guillaume Long.
Oui, on peut citer Mercure. Alors Mercure,
la plus proche planète du système solaire, on n'imagine pas trop y mettre les pieds pourtant.
Oui, c'est vrai. Alors, et vous avez raison de le dire. En fait, la seule option viable, un petit peu, la vie serait globalement très pénible partout sur ces mondes-là. La seule option viable sur Mercure serait d'être au terminateur, c'est-à-dire à l'endroit où l'ombre de la nuit en fait se change en jour, un petit peu au crépuscule comme ça, parce que côté jour il fait très chaud, côté nuit il fait très froid, donc ce serait à cette limite-là que la température serait à peu près clémente, mais cette limite bouge tout le temps, donc il faudrait vivre à bord. Alors, ça c'est notre collaborateur Evrar Wissem El-Jaraoui qui l'a imaginé. Imaginez vivre à bord d'un train qui avancerait lentement, quelques centimètres par heure, à la surface de Mercure et être en mouvement perpétuel.
Et puisqu'on a fait les températures sur place, 430 degrés côté jour, moins 180 degrés côté nuit. Il faudrait que ce train pour pouvoir être dans cette zone semi-tempérée.
Des températures aussi extrêmes sur Vénus dues à un effet de serre absolument colossal. Donc un cas extrême de l'effet de serre terrestre vraiment poussé à l'extrême qui permet de voir aux planétologues et aux climatologues calibrer leur modèle. C'est en étudiant d'autres planètes qu'on comprend mieux la nôtre aussi et notre atmosphère notamment. Et puis celle qui concentre beaucoup les discussions en ce moment, c'est Mars. Alors j'ai dit que le dossier était un peu déconnecté de l'actualité, mais l'actualité nous rattrape parce que il y a un certain Elon Musk qui fait une immense caisse de résonance à cette option. Tout son être est tiré vers cette planète-là, avec beaucoup de difficultés à l'heure actuelle, au XXIe siècle, pour se rendre sur la planète Mars, et beaucoup aussi d'esbrouf. L'entreprise SpaceX, c'est une entreprise qui fonctionne en grande partie sur fonds privés, donc qui doit lever des investissements. Donc il faut vraiment écouter ce que Elon Musk raconte avec immensément de pincettes, enfin une pensée critique très développée, une pensée critique qui manque parfois à ces sujets de l'astronautique, parce qu'on est empli de rêves. On a beaucoup, quand on est enfant, on a des livres, des jouets qui nous montrent ces fusées qui décollent. On est peut-être, il y a peut-être un cosmisme qui est survendu et qui va bien nous donner envie d'ailleurs, alors que tout ce que peut dire Elon Musk doit quand même être passé au crible du peigne critique.
Du peigne critique, les pincettes, vous en prenez, puisque vous rappelez quand même les conditions extrêmes de la planète et aussi le fantasme que représente la terraformation martienne.
Oui. Bon, on parle de terraformation dans ce numéro, mais Mars est hostile pour plein de raisons. Les deux raisons principales, je dirais, sont l'absence d'air. Hein. En fait, on parle souvent des températures très froides, très chaudes. Bon, on pourrait toujours, dans des habitacles chauffés avec l'énergie qu'on produirait sur place, il n'y a pas d'atmosphère. Enfin, il y en a une qui est très ténue, c'est 7 millibars à peine. C'est donc à peu près, si mes souvenirs sont bons, 50 fois moins qu'au sommet de l'Everest, où les alpinistes sont déjà à la limite de l'asphyxie. Et puis, il n'y a simplement pas d'oxygène. Donc, vous ne pouvez pas, sur Mars, aller courir nu une minute ou deux dehors et revenir dans votre base. C'est impossible. Et la deuxième, je dirais, c'est la faible pesanteur. Et là, sur du long terme, on ne sait pas ce qui peut se produire. On est à moins d'un tiers, je crois, de mémoire de pesanteur par rapport à la Terre, ou en tout cas dans ces eaux-là. Que se passerait-il si plusieurs générations d'humains se succéderaient à la surface de cette planète? Comment se développerait un fœtus dans le corps de sa mère? Probablement, on peut imaginer qu'il serait impossible à cet individu de revenir vivre sur Terre. Et donc, ça mettrait ça jette un frein à une vision martienne de long terme.
Philippe Pajot, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de paramètres qu'il faudrait contrôler. On a parlé de la gravité, de magnétisme, de la température, de l'air et de l'eau. Il y a des solutions individuelles pour chaque paramètre. Mais quand on réfléchit bien, on se dit quand même qu'on est quand même drôlement bien sur Terre et qu'on n'a pas besoin, à mon avis, de se fatiguer. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas besoin de se fatiguer à se poser ces questions, même si ça fait rêver. Mais quand même, c'est quand même énormément de choses qui posent des problèmes.
Oui, en effet. Puis c'est un des aspects qui est aussi évoqué dans ce dossier. Je cite, l'exploration du système solaire le révèle, aucun monde n'est propice à la vie. En d'autres mots, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, Guillaume Langin.
Oui, tout est une question de temporalité, je dirais. À court terme, enfin, et même à moyen terme, pour notre génération, la suivante, et des dizaines de générations à suivre, il n'y a pas de planète B. Après,
puis de façon très réaliste aussi, des limites technologiques aussi très concrètes.
Oui, aujourd'hui, en fait, si vous regardez une fusée décoller, c'est très inefficace. En fait, la planète Terre, moi, quand je vois une fusée décoller, je ne suis pas du tout impressionné par la puissance de l'engin. Je suis plutôt frustré que cet engin de 5000 tonnes pousse énormément pour n'emporter que 200 tonnes de masse en orbite basse. Et donc le Starship de SpaceX, c'est ça, c'est un pétard de 5000 tonnes, dont on pourrait dire quasiment 5000 tonnes de carburant. Donc la planète Terre en elle-même, la pesanteur, la gravité, est trop élevée pour les technologies de propulsion actuelles. Elle est vraiment très... c'est vraiment une limite dans ce sens-là, mais je dirais, il ne faut pas dire jamais, en science et en technologie, que diraient, des humains dans 20 000 ans s'ils écoutaient notre émission. Je suis sûr qu'ils retrouveront la rediffusion, le replay, et s'ils se trouvent effectivement dans une colonie martienne, parce que la technologie de leur époque et l'économie de leur époque a réussi à atteindre cela. Mais effectivement, en l'état, avec les technologies de notre époque, c'est trop tôt pour envisager des villes ailleurs que sur Terre.
Audrey Garrigue, vous souhaitiez rebondir?
Oui, non, poser une question plutôt. Je me demandais justement à quelle échéance Elon Musk se projette sur Mars. Est-ce qu'il donne des dates? Est-ce qu'il imagine des choses?
Comment ça passe? Alors des dates, il en donne énormément. Et c'est toujours des échéances irréalistes la plupart du temps. La dernière étant les premiers Starship sans humains à bord partiront dans 2 ans. Vers Mars. Les premiers, si l'atterrissage se passe bien, c'est son discours, je cite, les premiers Starship emportant des humains, ce sera dans 4 ans. Mais ces dates-là sont irréalistes si on se penche sur les défis techniques au devant de son entreprise. Elles sont surtout là pour nourrir un narratif et embarquer, disons, le public, embarquer des investisseurs. Voilà, donc vraiment, ne pas prendre ça au pied de la lettre. Je sais que c'est difficile pour le public et pour certains confrères et consoeurs non spécialisés. Vraiment ne pas prendre ça au pied de la lettre. Et voilà, je crois que ça résume un peu le...
Par contre, ce qu'il y a de réaliste, ce sont les simulations pour étudier le climat et la possible habitabilité de notre planète. À quoi ressemblerait la Terre avec plus de 4 degrés en 2100? On y vient, c'est notre deuxième sujet.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Comme chaque premier lundi du mois, on fait le tour de l'actualité scientifique en compagnie de nos amis de la presse écrite. Audrey Garrigue pour le journal Le Monde, vous enquêtez sur le réchauffement climatique, les scénarios d'évolution et les différentes mesures politiques.
Vous le savez, chaque année et de plus en plus, une succession d'événements climatiques extrêmes émaille notre actualité. Records de chaleur, précipitations torrentielles, sécheresses dévastatrices, cyclones, gel tardif, grêle imprévisible. Le plan national d'adaptation au changement climatique que je présente aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette planification écologique et dans la stratégie française pour l'énergie et le climat. Une action d'ensemble pour atténuer, décarboner, adapter.
La France n'est pas encore prête face au changement climatique, affirment ce matin les experts du Haut Conseil pour le climat. Et cela malgré le plan d'adaptation que vient de présenter le gouvernement. Les experts estiment que les financements actuels sont très insuffisants.
On entendait la voix d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. On va commencer, avant de parler de la réaction du Haut Conseil pour le climat, on peut déjà commencer par le PNAC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, qui a été présenté le 10 mars. C'est un document de 52 mesures. Audrey Garrigue, quelles sont justement ces mesures ?
Mais l'objectif, c'est donc de préparer la France au réchauffement climatique, et en partant de l'idée que le réchauffement est déjà là, qu'il va s'amplifier, et donc il faut se préparer à une France à 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle, avec d'autres échéances en 2030 et en 2050. Et donc c'est 52 mesures, c'est 310 actions, ça se décline dans tous les domaines, et l'idée, c'est de se préparer pour l'agriculture, sur les bâtiments, les transports, les systèmes énergétiques, faire en sorte que tout soit résilient. Et le problème, en fait, c'est que ces mesures, d'après le Haut Conseil pour le climat, qui est donc une instance consultative indépendante, ne sont pas suffisantes, en fait, pour se préparer et pour faire face aux effets du changement climatique. Il y a un gros problème de financement, parce que sur les 310 actions, il n'y en a que 48 qui sont financées. Sur les autres actions qui sont financées, en fait, les financements sont quand même en baisse en raison de coupes budgétaires sur le budget de 2025. Et ensuite, il y a des lacunes sur le fait que ce sont souvent des mesures incrémentales de petite taille et pas de grande ampleur, sur le fait qu'il y a beaucoup d'incitations, de rapports, de plans, etc. et pas de contraintes, le fait qu'on ne s'attaque pas, on ne touche pas en fait les populations les plus vulnérables au changement climatique ou les territoires ultramarins. Donc, d'après le Haut Conseil pour le climat et d'autres et les ONG aussi, en fait, la France n'est toujours pas prête à faire face au changement climatique.
Et selon ce Haut Conseil pour le climat, il faudrait donc avoir un plan plus annuel de financement. Et surtout, au lieu de s'adapter, il faudrait prendre des mesures qui aient un impact à long terme, ne pas se contenter de subir le réchauffement climatique.
Oui, c'est ça. Il faudrait, par exemple, donc ce qu'ils entendent par mesures transformationnelles, donc c'est par exemple dans l'agriculture, c'est changer tous les systèmes de culture, revoir en fait en profondeur le système agricole et pas seulement faire évoluer la date des semis, par exemple, ou face à l'élévation du niveau de la mer qui va être de plus en plus importante et provoquer des submersions. Il s'agirait de penser à certains endroits un retrait des activités, ou alors des solutions basées sur la nature. Et non pas seulement construire des digues et les monter, parce qu'il y a toujours, il y a un moment, en fait, ce sera plus suffisant. Donc, c'est revoir vraiment en profondeur l'adaptation et se mettre vraiment sur une trajectoire de 4 degrés à la fin du siècle, qui, en fait, paraît pessimiste, mais c'est pas un scénario pessimiste. En réalité, c'est le scénario qui est vu comme intermédiaire aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus pessimiste dans les options, puisque, en fait, la France et l'Europe se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale.
Pourquoi ? Pourquoi la France et l'Europe sont particulièrement concernées par le réchauffement climatique ?
Il y a différentes raisons. Il y a d'abord le fait qu'en fait les continents se réchauffent plus vite que les océans. Donc à l'échelle mondiale, forcément, ça va être un peu plus en France. Il y a le fait qu'on a, par rapport à On inclut en fait dans l'Europe et dans l'Europe la zone arctique qui se réchauffe beaucoup plus vite. Et après, c'est lié à des considérations atmosphériques. Mais donc, le résultat, c'est que pour l'instant, le réchauffement climatique est de 1,3 degré depuis l'ère pré-industrielle. Et en France, on est à 1,8 degré. Donc, ça va plus vite. Donc, on se dit qu'avec les politiques actuelles que mènent tous les États du monde, elles sont insuffisantes. Donc, on va vers 3 degrés de réchauffement climatique au niveau mondial à la fin du siècle. Donc, ça correspond à 4 dans l'Hexagone.
Alors justement, avec ce scénario, avec plus 4 degrés d'ici 2100, à quoi ressemblera la France dans ces conditions? On a un aperçu avec le rapport publié le 20 mars par Météo France.
Oui, tout à fait. En fait, ils ont fait ça donc, dans le cadre de ce plan national d'adaptation au changement climatique. Et c'était, je trouve, une plongée assez vertigineuse sur... qu'est-ce que c'est une France à 4 degrés qui effectivement rappelle qu'on n'a pas de planète B, qu'il vaut mieux se concentrer sur la Terre plutôt que d'aller explorer d'autres solutions ailleurs dans le système solaire ou dans d'autres systèmes. En fait, 2100, voilà, c'est chaud, très très chaud. C'est, par exemple, pour donner juste un chiffre, une année comme 2020, qui est l'année record, l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, ce sera une année exceptionnellement fraîche à la fin du siècle dans cette trajectoire. Des extrêmes de 50 degrés, on n'a jamais atteint ça en France. Là, ça deviendrait possible même dès 2050 et probable en 2100 dans le sud de la France, mais aussi dans le centre, dans le bassin parisien, dans d'autres endroits, en fait, pas seulement le sud. On aurait des canicules qui seraient presque en continu entre la mi-mai et presque au début octobre, ce qui serait évidemment très dur à supporter. C'est un enjeu de santé publique aussi, puisque ça augmente la mortalité. Pour rappeler que en 2024, à l'été 2024, il y a eu 3700 personnes qui sont mortes de la chaleur, alors que c'était seulement, entre guillemets, le 8e été le plus chaud depuis 1900. Et cette fournaise se poursuivra même après le coucher du soleil, parce qu'on aurait un nombre de ce qu'on appelle nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température minimale est supérieure à 20 degrés, qui va considérablement augmenter. Ce serait jusqu'à 100 à 120 nuits tropicales dans les zones méditerranéennes et aussi 30 à 40 par an dans la région parisienne. Donc ça empêche d'avoir un repos réparateur pour l'organisme. Et une France plus chaude, c'est aussi une France plus sèche, où on aurait en 2100 4 à 5 mois de sol sec dans la moitié nord du pays et jusqu'à 7 mois dans les zones méditerranéennes ou en Occitanie. Donc ça, c'est aussi des périodes de sécheresse qui peuvent s'étaler sur plusieurs années consécutives et évidemment être un problème pour tous les usages, l'eau potable, l'agriculture, l'industrie, l'énergie. Et ce manque d'eau, en fait, qui paraît un peu contre-intuitif, mais n'empêche pas d'avoir aussi des pluies plus intenses qui sont aussi aggravées par le réchauffement climatique. Et donc là, ça va aussi s'intensifier partout en France, un peu plus sur la moitié nord. Et par exemple, l'année 2024, on s'est, je pense, un peu tous dit que c'était une année assez pénible à vivre en termes de pluviométrie, un record depuis 20 ans. Ce serait une année ordinaire en 2050 ou en 2100. Et il y a encore d'autres choses, l'aggravation des incendies. Ouais, il y a beaucoup moins
des risques accrus de feux de forêt sur tout le territoire.
Voilà, qui commenceront plus tôt, qui finiront plus tard, qui
comme pour les canicules. Voilà,
c'est toujours un peu tout est exacerbé en fait.
Mais voilà, une France qui bouillonne avec des événements climatiques extrêmes, quels pourraient être les impacts sur la société, Audrey Garic?
Mais ça touche tous les secteurs en fait, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les secteurs énergétiques. Donc c'est tout le monde en fait, tous les secteurs qui doivent s'adapter, réfléchir à des plans et les sociétés revoir la façon de se déplacer, d'habiter, de se nourrir aussi, puisque tout est lié. Et pour les climatologues que moi j'interroge fréquemment sur ces sujets, en fait pour eux, c'est plus une question maintenant de vivre dans un monde à 4 degrés, mais une question de survie. Et ils estiment qu'on ne pourra pas en fait, s'adapter totalement, qu'il va falloir faire des choix et décider tout de suite de ce qu'on protège, mais aussi ce qu'on abandonne, parce que tout ne sera plus possible avec un tel réchauffement.
Philippe Pageau, vous avez aussi joué le jeu d'imaginer ce scénario qui est celui du plus 4 degrés.
C'était dans un numéro de Sciences et Avenir, la recherche un peu ancien, mais effectivement, en termes de santé publique également, il y a énormément de conséquences, hein, puisque ça augmente l'exacerbation de la pollution notamment, avec des conséquences pour l'asthme, pour la santé, des espèces invasives qui sont en augmentation, donc avec, il y a déjà on parle des moustiques tiques depuis un certain temps, mais ça va s'exacerber d'une façon qu'on n'arrive pas encore à mesurer, c'est terrible, et donc il y a vraiment énormément de conséquences en termes de maladies potentielles.
Oui, Audrey Garic.
Oui, non, je voulais juste compléter parce qu'évidemment, donc l'enjeu c'est de s'adapter, mais après il faut pas oublier que ce qu'on sait tous ici, mais qu'il faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que justement, comme ce sera plus possible de s'adapter, pas possible de s'adapter à un tel réchauffement, l'urgence c'est de réduire nos émissions pour ne pas arriver à 4 degrés. Et pour l'instant, même si la France réussit à baisser ses émissions de gaz à effet de serre, on est sur une trajectoire qui menace de dérailler en ce moment, puisque l'an dernier les émissions elles ont baissé de 1,8%, ce qui est 3 fois moins que les d'avant. Donc il faut maintenant tripler les efforts dans les années à venir pour tenir les objectifs climatiques pour 2030, et on est sur des indicateurs qui sont assez mauvais, avec des points noirs qui sont dans les transports, les bâtiments, et on voit que le contexte actuel d'attaque et de renoncement sur la transition écologique, que ce soit aux États-Unis avec Donald Trump, en Europe et en France, est délétère. Il y a vraiment un ralentissement dans beaucoup de choses, l'électrification des véhicules, la rénovation énergétique des bâtiments. On a des coupes budgétaires qui ont été assez néfastes aussi. Et tous les débats, les assouplissements sur beaucoup de choses comme la zéro artificialisation nette des sols ou d'autres objectifs nous mènent pour l'instant dans une trajectoire qui risque de dérailler. Donc il y a une urgence à avoir un sursaut sur ces questions-là.
Vous souhaitiez réagir, Guillaume Langin ?
Non, oui, ça m'a amené une petite réflexion sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est ce qui rend aussi le narratif martien, je reviens sur Mars, anachronique. Parce que pour un scénario de la construction d'une ville à 1 million d'habitants sur Mars, qui est une histoire qui existe dans la bouche d'Elon Musk, il faudrait décupler la masse envoyée de la Terre à Mars. Et historiquement, en fait, on a coutume de dire qu'un lancement de fusée, ça a un très faible impact sur l'atmosphère et sur le forçage radiatif de cette atmosphère. C'est équivalent à un transatlantique, Paris-New York, un grand long courrier, enfin grand gros avion. Et comme il n'y a que 200 lancements de fusées par an, contre 30 millions de vols d'avions par an, enfin c'est des ordres de grandeur complètement différents, alors le spatial reste négligeable. Maintenant, si vous voulez envoyer toute cette masse, ces milliards et milliards de tonnes sur Mars, vous devez décupler les lancements de fusées. Donc j'avais sorti la calculatrice justement pour le dossier l'espace, ne serait-ce que pour produire l'énergie qui serait issue de la fission nucléaire, donc envoi de réacteurs à fission nucléaire sur Mars, pour 1 million d'habitants martiens. Donc pour vivre confortablement, il faut grosso modo 20 kilowatts par personne. Et si on prend un des rares réacteurs à fission nucléaire qui existent, encore à l'état à fission nucléaire spatialisée, hein, encore à l'état de prototype, et qu'on le fait grossir pour qu'il rentre sous la coiffe d'un Starship, donc pour produire 3 millions de watts, ce serait la capacité de production, 1 million de personnes, ça fait 6600 Starship, l'envoi de 6600 fusées énormes de Elon Musk, si tant est qu'elles fonctionnent dans le futur. Et donc, pour 1000 Starship, on est à 5 millions de tonnes d'ergol de carburant de fusée brûlé. C'est 100 fois plus que... c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, on est à 50 000 tonnes par an. Et 50 000 tonnes par an, c'est ce que le spatial brûle chaque année. C'est déjà 4 à 16% de l'aviation cette année-là, en 2023. Donc, les ordres de grandeur décuplés. Voilà. Et ça m'amène à la conclusion suivante, qui est que pour faire une ville d'un million d'habitants martiennes, il faut dégrader l'atmosphère, l'enveloppe que respirent 8 milliards d'habitants terriens. Et c'est un peu contradictoire.
On saisit bien, en effet, l'aspect éthique de ces questions en pleine crise écologique majeure, où il faudrait investir dans les transports en commun ou encore relancer les trains de nuit. On poursuit avec les neurosciences. Quels sont les ressorts cachés de l'intuition ? On y arrive.
Yeah.
Les Parisiennes, il fait trop chaud pour travailler. En direct sur France Culture, on fait le tour de l'actualité scientifique en compagnie de nos amis de la presse écrite. Audrey Garrigue, journaliste au service Planète pour le journal Le Monde. Philippe Pajot, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la recherche. Guillaume Langin, journaliste pour la revue Ciel et Espace. Et Élodie Chabrol, neuroscientifique, communicatrice, vulgarisatrice et directrice internationale du festival Pint of Science. Élodie Chabrol, vous avez choisi de nous parler du dossier Neuroscience, paru dans le magazine Pour la Science, un dossier dans lequel on s'interroge sur les mécanismes du phénomène Eureka.
Le Eureka qui sort de nulle part n'existe jamais, en fait. Le Eureka, c'est l'accumulation de savoir, de connaissances. On est face à un mur, le mur de la connaissance, et on en cherche les aspérités, on cherche. On lit beaucoup, il y a la nécessité de lire et de se documenter énormément pour pouvoir trouver la petite faille dans le mur, le petit trou où on va pouvoir gratter et repousser un peu le mur d'autant. Néanmoins, qu'il y ait à un moment donné un déclic, une sorte de révélation, ce côté un peu immanent de la pensée qui arrive et qui tombe, c'est assez indiscutable. Mmh. C'est la fameuse légende de Poincaré qui aurait eu son idée géniale en montant dans l'omnibus. Ce côté magique peut aussi provenir du fait que l'Eureka vient dans des moments où le cerveau justement n'est plus sollicité de la même façon. C'est-à-dire que le cerveau est au repos, donc dans des activités routinières, en faisant de la marche, en se promenant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se libère de l'espace mental, d'un seul coup, le cerveau qui ne cesse de travailler sur toutes les connaissances accumulées dans les jours et les mois et les années précédentes, à un moment donné, finalement, va faire presque de lui-même une forme de synthèse et qui, d'un seul coup, débouche et apparaît comme étant cette idée. Mais l'idée ne vient évidemment pas de nulle part. Elle vient avant tout du travail et de la recherche permanente, d'accumulation de connaissances pour précisément trouver les interstices dans lesquels peut se glisser la pensée d'une nouveauté.
Nicolas Martin, auteur du livre « La naissance du savoir » et l'ancien producteur de la méthode scientifique à notre micro en 2023. Élodie Chabrol, un instant Eureka qui ne sort de nulle part, ça n'existe pas.
Non, en fait, c'est exactement très bien décrit, par Nicolas. C'est un instant Eureka, en fait, c'est relié des choses qu'on a vues ou auxquelles on a pensé qui sont un peu enfouies avec une idée qu'on cherche en fait. Donc c'est vraiment un déclic relié deux choses. Parfois ça va être dans la rue une chose qu'on voit qui va nous rappeler un truc et en fait c'est ce moment Eureka.
Ce moment Eureka, ça fait un certain temps qu'on s'interroge sur ce phénomène. Avant de parler des découvertes récentes, on peut peut-être faire un petit historique de l'étude de ce phénomène depuis le légendaire cri, le fameux « j'ai trouvé ». Qui sont ceux qui ont posé les fondements de l'étude de ce phénomène ?
Donc les premiers à en parler, c'est la théorie de la Gestalt, théorie fondée en Allemagne en 1910. Et en fait, ils en parlaient comme une révélation soudaine, une intuition, une reconnaissance ou une compréhension. Donc c'est vraiment les premiers à en avoir parlé. C'est Merriam-Webster, qui l'a défini comme ça. C'était vraiment la première fois qu'on décrivait ça comme le fruit d'un processus qui est non conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'atteindre, ça vient à nous tout seul. Après, ça a un petit peu avancé. Il y a eu le développement des méthodes expérimentales un petit peu plus sophistiquées, parce que 1910, pour étudier le cerveau, c'était un petit peu compliqué. Dans les années 80-90, là, on suivait plutôt avec de la psychologie cognitive. Et là, il y a Janet Metcalfe, en fait, qui est maintenant à l'Université de Columbia à New York, qui a montré en 1987 qu'il y a vraiment deux types de façons de résoudre des problèmes. Il y a la façon analytique, où là, c'était un sentiment de se rapprocher progressivement de la solution. Et il y a l'Eureka.
De résoudre un problème d'algèbre, par exemple.
Exactement, c'est un peu comme monter une marche. Chaque marche va aider à arriver en haut. Et puis l'Eureka qui est vraiment l'inverse, c'est-à-dire une résolution très brusque, sans progression au fur et à mesure.
Alors justement, par rapport à cette étude, comme vous dites, en 1910, bon, le cerveau, c'était assez limité pour analyser. Quels ont été les outils pour un peu mieux expérimenter un cerveau qui est en train de vivre un instant Eureka ?
Bah là, on arrive justement dans le développement de la neuroimagerie. Donc cet article parle surtout d'une étude qui a été faite avec l'EEG, donc électroencéphalogramme. On mesure l'activité électrique du cerveau, couplée à l'IRM fonctionnel qui permet d'avoir des images des afflux de sang, en fait, donc des zones vraiment actives du cerveau.
Et donc ces deux-là combinés, en fait, ont permis de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant un moment d'eureka. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des, participants et participantes et ils les ont fait faire des casse-têtes, des espèces de petits problèmes. Et ils ont regardé ça, ils leur ont gardé le cerveau, et ils leur ont demandé à la fin s'ils avaient plutôt résolu ça sous forme eureka, donc si la solution leur était venue comme ça d'un coup, ou si c'était vraiment plutôt analytique. Et suivant leur réaction, ils ont regardé et on a vu qu'en fait, la résolution d'un problème par eureka, en fait, avec vraiment ce déclic, elle est associée à une synchronisation soudaine et marquée d'onde cérébrale, donc ça se voit vraiment sur le G, à haute fréquence dans lobe temporal droit du cerveau. Alors, si vous voulez voir où c'est, parce que ça ne parle pas forcément, c'est juste au-dessus de l'oreille droite, en fait. Dans une zone qui s'appelle, attention, le gyrus temporal antéro-supérieur.
Alors, dans quoi est impliquée cette région, d'ailleurs?
Eh bien, cette région, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle est impliqué dans notre capacité à comprendre des métaphores, des blagues, en fait, associer des choses qui ne le seraient pas forcément de premier abord. Donc, quand on entend effectivement une image, quelque chose, une blague, parfois, il faut un peu réfléchir. Ben voilà, c'est cette zone qui est liée à ça. Mais il y a des façons de comprendre qui ne sont pas forcément dû à cette zone-là, notamment, il y a des problèmes, si on vous donne des espèces d'anagrammes, s'il faut réfléchir à ça, par exemple, si on vous dit B-E-L-A-T, belat, il faut refaire le mot table. Là, ça vient du lobe temporal, ça vient plus du lobe temporal droit, mais plutôt le lobe frontal.
Bah, c'est marrant parce qu'il y a ces deux approches qui sautent aux yeux, en fait. Approche intuitive, approche analytique, et finalement, ce sont deux façons de penser, de réfléchir, qui sont tout à fait différentes.
Ce sont deux façons différentes, mais attention, c'est pas parce qu'on pense d'une façon qu'on ne peut pas utiliser l'autre. Les deux sont utilisables. Mais par contre, ce qui est assez... moi, ce que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant dans ce dossier, c'est qu'en fait, donc il y a un doctorant, Brian Erickson, dans le laboratoire de John Cunios. Hein, cet article a été écrit par John Cunios et Janet Cunios, je crois. Donc, le doctorant de John Cunios, aux États-Unis, en fait, ils ont réussi à montrer que quand on se détend, donc pas pendant la tâche, quand on se détend, qu'on n'est pas en train de réfléchir dans l'immédiat, on pouvait lire sur un cerveau, sur un EEG de cerveau, quel type de pensée on avait.
De façon détendue.
Donc en fait, apparemment, cette semaine après, si on a fait les tests, cette semaine après encore, il est possible de voir quel type d'activité ou quel type de résolution les gens avaient. Donc vraiment, le EEG diffère suivant les types. Il suffit de lire quelques minutes de EEG pour savoir. Je trouve ça assez magnifique. On est capable de deviner quel type de résolution vous allez utiliser en lisant votre activité cérébrale.
Il y a d'autres choses assez formidables aussi dans cet article, sur notamment les très nombreux aspects qui gravitent autour de l'intuition.
Tout à fait. Alors, bien sûr, l'intuition, du coup, il y a plein de choses qui gravitent autour. Apparemment, l'humeur. Donc l'humeur, il y a vraiment un double tranchant, on va dire. Le style de pensée peut changer selon l'humeur. Alors, ce qui paraît logique quand on l'explique un petit peu, par exemple, si vous êtes de bonne humeur, si tout va bien, vous allez peut-être plutôt utiliser l'intuition. Si vous êtes plutôt dans une situation anxieuse, vous allez avoir une réflexion plus analytique, tout simplement parce que c'est plus simple. On se sent un peu plus en sécurité dans une réflexion analytique. Et il faut peut-être justement être bien. Ça vient peut-être d'avant, où quand on était bien, on pouvait avoir une espèce de réca, une intuition, alors que vraiment, quand on avait un bestiole qui nous courait après, il fallait être très analytique et il fallait pas faire confiance à ce qu'on allait avoir comme situation de réca. Et puis, il y a l'inverse qui a été montré, que résoudre des analogies complexes, avoir ces sensations de réca, en fait, ça améliorait l'humeur des participants pendant au moins une heure et ça avait vraiment un effet assez fort. Donc, en fait, avoir ces sensations de réca, ça met de bonne humeur, ça procure un bien-être.
Ah, c'est la joie de la découverte, ça aussi.
C'est la joie de la découverte, ce qui peut expliquer pourquoi il y a certaines personnes qui vont justement plutôt aller vers ces voies, qui ne seront pas forcément très rémunératrices ou quoi, mais par exemple les artistes aussi apparemment qui auraient ce genre d'oreca. Voilà, ça explique pourquoi on va plutôt pour ce genre de voix qui ferait du bien, qui mettrait de bonne humeur et qui serait bonne pour le bien-être.
Et du coup, c'est aussi bon pour la mémoire, je lisais. Que finalement, l'intuition, ça améliore la mémoire et l'apprentissage.
Exactement. Alors, ils ont testé, sur des tours de magie, par exemple. Les gens qui ont compris comment le tour de magie marchait de façon analytique s'en souvenaient moins que les gens qui ont compris ça de façon intuitive ou de façon eureka. Apparemment, ça les a plus marqués et ils gardaient plus en mémoire comment ça marchait.
On parle de magie, on parle aussi des joueurs et des parieurs dans cet article.
Oui, alors parce que le côté un peu plus négatif de l'Horeca, c'est qu'on aurait peut-être un peu trop confiance. Ah oui, il y a ça aussi. Un peu trop confiance et donc du coup, ça conduirait à penser que tout va bien se passer un petit peu trop ou avoir un peu trop confiance en ses idées. Donc oui, ce serait le côté plutôt négatif.
Philippe Pajot, ça vous inspire tout ça?
Oui, et puis du côté des mathématiciens notamment, dont Nicolas faisait référence à Henri Poincaré, qui se souvient précisément du moment Horeca où il a mis le pied sur le marchepied du tramway, où il a eu l'intuition des fonctions fouxiennes. Il y a évidemment le célèbre exemple d'Einstein aussi, qui se souvient du moment où précisément il a compris que la chute libre, la gravitation, c'était la même chose, et ce qui lui a mis le pied à l'étrier, si je puis dire, de la relativité générale, la théorie de la gravitation. Et puis, plus près de nous, Jean-Pierre Serre, le grand mathématicien français qui a 98 ans actuellement, qui est encore actif, qui raconte toujours que les moments où il se sent bien pour faire des mathématiques, c'est en faisant la vaisselle. Donc ça va tout à fait dans ce sens-là, où c'est un moment où finalement l'esprit n'est pas analytique et il est quand même relâché pour... et voilà, et donc il a ces moments d'Horeca en général, souvent en faisant la vaisselle.
Et la légende raconte que Watson et Crick ont eu le moment Horeca de l'ADN quand ils étaient au pub à Cambridge. Sont retournés dans leur laboratoire derrière pour faire une manip clé dans cette découverte-là.
Mais ce qui est très recommandé, le pub, la vaisselle, il y a surtout le sommeil, comme
voilà,
il faut le rappeler,
sommeil,
qui favorise ce processus, qui explique aussi pourquoi les scientifiques peuvent avoir ces déclics créatifs après une nuit de sommeil.
Exactement, le sommeil favorise tout ce qui permet d'être dans un bon état, de baisser l'anxiété, donc forcément le sommeil favorise ça. Enfin voilà, tout ce qui est en gros bénéfique à être calme et zen, ça vous permet d'être dans une situation où l'Horeca sera plus facile ou plus, en tout cas, oui, plus facile. Il y a un exemple qui est hyper intéressant dans le dossier. Donc là, on parle de mathématicien. Il y a un chirurgien indien, Vishal Rao, il me semble, qui réfléchissait à faire des prothèses vocales, en fait. Mais il ne savait pas comment exactement les insérer sans que ça coûte des chirurgies très très chères, etc. Et en gros, faudra aller voir donc dans le magazine pour le détail. Mais en gros, en faisant les courses, il y a une boîte de tampons qui est tombée. Il a vu ses applicateurs à tampons. Il a pensé que ça serait une bonne idée. Et en fait, c'est vraiment mon Eureka. C'est venu de là. Il est allé faire les courses avec sa fille. La boîte est tombée. Il a vu ça. Il s'est dit, bah, pourquoi pas. Et voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui permettent en fait de lier voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec parfois des problèmes qu'on a et boum.
Et à l'inverse, les Eureka sont fragiles, donc ils peuvent être freinés par l'anxiété, le manque de sommeil et la pression sociale à la productivité. On continue de faire le tour des instants Eureka, notamment celui d'Einstein. Après le mystère de la créativité, on tente de percer le secret des trous noirs.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre tour d'horizon de l'actualité scientifique. Pour ce nouveau numéro de La Recherche, Philippe Pajot, vous consacrez un dossier spécial sur les trous noirs.
La notion de trou noir est définie à partir de la notion de communication. Communiquer avec un système physique ou une région de l'univers, c'est pour un physicien recevoir de l'information de la part de ce système. Les trous noirs, proprement dit, d'un point de vue technique, ont été introduits en 1918, dès les débuts de la relativité générale, par ce mathématicien, Schwarzschild. Mais à partir de cette interrogation, de ces questions posées par Laplace, on avait donc déjà presque un trou noir. Alors il faut dire que ce rayon critique est proportionnel à la masse de l'astre. Et, enfin, peut-être heureusement, probablement heureusement, tous les astres connus ont un rayon supérieur à ce rayon critique. Ainsi donc, aucun astre connu, au moins à cette époque, ne pouvait constituer un trou noir.
Voilà, on avait Jean Schneider, astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, chercheur au CNRS dans l'émission La Science en Marche en 1973 sur France Culture. Philippe Pajot, aujourd'hui, on communique avec les trous noirs. Comment fait-on?
Depuis 10 ans, c'est absolument extraordinaire. On appelle ça l'âge d'or de l'observation des trous noirs, parce que depuis 10 ans, il y a des moyens extrêmement variés d'observer les trous noirs. Là, il y a eu un communiqué de presse récemment. Ça fait 200, on a observé depuis 5 ans 200 trous noirs, 200 fusions de trous noirs, c'est-à-dire deux trous noirs qui ont fusionné l'un avec l'autre et qui ont donné un troisième trou noir. Donc 200 fusions, ça veut dire 600 trous noirs, puisqu'il y a les deux trous noirs initiaux et le trou noir final. C'est-à-dire que tous les deux ou trois jours, faut mesurer ça tous les deux ou trois jours, on repère sur Terre une onde gravitationnelle qui passe, qui est issue de la fusion de trous noirs. C'est complètement hallucinant. Quand j'étais étudiant dans les années, fin des années 80 en physique, et qu'on assistait à des séminaires où les gens nous disaient « on va faire ça, on va détecter des trous noirs », moi j'y croyais même pas. Je disais, c'est pas possible. Enfin, quand on voyait la technicité, il fallait tout améliorer de facteurs de plusieurs milliers, c'était complètement incroyable. Là, on vit ça et c'est juste fabuleux.
Il a en effet fallu un siècle après les prédictions dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein pour détecter ces ondes gravitationnelles. Depuis 2015, comme vous dites, 10 ans d'âge d'or. On a, depuis cette première détection, aussi d'autres progrès qui ont été faits en la matière.
Oui, alors il n'y a pas que les ondes gravitationnelles, il y a effectivement ces ondes gravitationnelle. Il y a également des observations directes. Alors, d'abord, un trou noir, effectivement, comme disait Schneider, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, puisqu'il y a une sorte d'horizon des événements qui fait que ça ne peut pas émettre de lumière. Donc, on peut dire, du coup, comment on peut voir un trou noir s'il y a, puisque c'est un astre par définition invisible, la lumière duquel la lumière ne peut pas s'échapper. Alors, en fait, un trou noir n'est jamais nu. Un trou noir, autour de lui, un environnement, du gaz qui tombe dessus, des étoiles qui peuvent tomber dessus. Et cet environnement, en fait, quand on l'observe, c'est ça qui révèle en fait le trou noir. Une étoile qui passe à proximité d'un trou noir, par exemple, peut être déchirée, peut-être par les forces de gravitation. Et donc, ce qu'on observe, c'est une émission qui résulte de ce déchirement. Et par ailleurs, il y a du gaz qui tombe dessus et qui s'échauffe. Et en fait, ce qu'on observe, c'est cet échauffement. Et donc, il y a eu un pari effectivement assez extraordinaire. C'était d'observer directement ce gaz qui tombe sur un trou noir. Et on s'est orienté vers deux trous noirs. D'une part, le trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Et d'autre part, un trou noir encore plus gros, plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, qui est au centre de la galaxie M87.
Et ça, ce trou noir-là, c'est le fameux trou noir où on a
le premier,
la première
image,
le fameux donut.
Voilà.
De 2019.
Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce trou noir, sa taille, s'il était à la place du Soleil, il engloberait tout le système solaire. Donc, il faut voir un petit peu ce que ça représente. Les trous noirs, ce sont les objets les plus massifs qui existent dans l'univers. Et encore, M87, c'est pas le plus gros. Donc, c'est les objets les plus massifs qui peuvent exister, mais également, il peut y en avoir des plus petits.
Et ça, c'est grâce justement à ce M87, ce trou noir au centre de la galaxie M87, ça a été rendu possible grâce à cette technique qui est l'interférométrie training base.
Voilà, effectivement, donc il faut avoir un télescope énorme, et donc comme on peut pas avoir avec des longueurs d'onde optiques visibles habituelles, on peut pas faire de télescope énorme. Vous savez, avec les télescopes à peu près c'est 10 mètres de diamètre. Un radiotélescope, on peut avoir quelque chose de plus gros, mais pas assez gros. En fait, pour voir un trou noir, il fallait avoir un radiotélescope qui fasse la taille de la Terre. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, on va combiner ensemble les signaux radio de plusieurs radiotélescopes. Et en faisant ça, on va avoir un radiotélescope équivalent qui fait la taille de la Terre. Et on aura la définition qu'il faut pour voir, effectivement, le gaz qui tombe sur ces deux trous noirs géants M87 et au centre de notre galaxie également.
Sagittarius à étoile, en effet. Mais pour ça, Philippe Pajot, là, on décrit en effet des façons des moyens indirects et des moyens directs. Quelles sont les limites actuelles par rapport, on parlait au début de ces détecteurs d'ondes gravitationnelles. Quelles sont les limites auxquelles les scientifiques doivent faire face aujourd'hui?
Alors, ces détecteurs d'ondes gravitationnelles sont des instruments extrêmement fin. D'ailleurs, il y a une blague qui circule chez les astronomes qui disent, si jamais une civilisation extraterrestre nous rencontre et qu'elle apprend qu'on est capable de voir les ondes gravitationnelles, pour elle, ce sera un signe de civilisation extrêmement élevé. C'est vraiment le summum de la connaissance. C'est tellement c'est extraordinaire. Et donc, pour voir pour donner une idée, le passage d'ondes gravitationnelles par la Terre, ça induit des variations de distance qui sont plus petites que le millionième de la taille d'un proton. Et donc, ça veut dire que ces instruments-là, ce sont des règles extrêmement précises, et c'est complètement fou, parce que la taille d'un proton, on n'arrivera jamais à le mesurer, si on y arrive. Et donc, ce qui nous limite en ce moment, c'est effectivement cette, c'est déjà pas grand chose, mais on voudrait aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire pouvoir des choses qui sont encore plus petites que le millionième, on arrive au milliardième, etc. Et qu'est-ce que ça va pouvoir permettre? Ça permettra de voir un volume d'univers plus grand et de voir plus de trous noirs autour de nous. Pour l'instant, on est relativement limité en distance. On voit en gros des fusions de trous noirs qui vont jusqu'à à peu près 1 milliard, on va dire quelques milliards d'années-lumière autour de nous. En améliorant les instruments, on arrivera à quelque chose qui sera encore plus grand et on pourra faire de la cosmologie avec. Ça, c'est complètement nouveau. On appelle ça de la cosmologie gravitationnelle. C'est un domaine qui est en train qui démarre, hein, parce que on en est les premiers résultats. Et donc, on espère aller vers ce qu'on appelle des décalages vers le rouge de plus en plus grands. Alors, donc, non pas en observant de la lumière, mais en observant des trous noirs, des ondes gravitationnelles qui viennent d'endroits de plus en plus lointains de l'univers, donc d'un univers de plus en plus primordial. C'est génial. Alors pour vous dire où on en est là, donc il y a une campagne en ce moment, la campagne d'observation des trous noirs s'appelle O4. Elle se terminera à l'été prochain. C'est pas encore publié.
Elle a commencé en 2023.
Ouais, 2024. Donc c'est elle qui vient d'annoncer qu'on en est à 200 détections d'ondes gravitationnelles. On en aura sans doute encore beaucoup plus. Et dans les années à venir, avec ces instruments-là et les instruments, il y a des instruments spatiaux également encore plus fous qui sont en construction. C'est pas 200 trous noirs qu'on espère, 200 ondes gravitationnelles, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions. Et donc, on peut imaginer qu'avec ça, on va faire une astronomie qui est complètement nouvelle. Donc là, je suis extrêmement impatient de voir ce qui va se passer à l'automne, lorsque au moins les premiers seront publiés ces résultats effectivement statistiques de cette campagne-là, avec peut-être une surprise, parce que peut-être que ces trous noirs qu'on voit là, ce sont peut-être ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Les trous noirs primordiaux, c'est pas du tout les trous noirs qui sont issus de l'effondrement d'une étoile, qui est le trou noir classique qu'on connaît, mais peut-être que ce sont des trous noirs qui se sont formés au tout début de l'univers, dans les premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang, et ça permettrait d'avoir des indices de ce qui s'est passé à cette époque-là.
Oui, parce qu'ils sont encore à l'état actuel des hypothèses dont on aimerait pouvoir justement essayer de saisir des choses assez concrètes de ces objets hypothétiques. Donc ça, en effet, ça c'est le. On a aussi la campagne O5 prévue pour 2020. Et puis, on a quand même pas mal de progrès auxquels s'attendent dans les années et les décennies à venir.
Alors voilà, il y a d'une part effectivement les instruments actuels. Alors les instruments actuels, je ne les ai pas cités, mais il y en a deux aux États-Unis qui s'appellent LIGO, un en Italie qui s'appelle Virgo et un au Japon qui s'appelle Kagra. Ça, c'est les quatre instruments qui fonctionnent à l'heure actuelle. Ils sont en train d'être améliorés, donc pour aller plus loin, pour explorer voir des distances de plus en plus fines, donc explorer un volume d'univers de plus en plus grand. Il y a également un grand interféromètre au sol qui est prévu, le professeur Einstein, qui est prévu pour dans quelques années, plus cet observatoire spatial LISA, qui cette fois-ci regardera ces variations de distance, non pas du sol, mais de l'espace. Et qu'est-ce que ça permettra? Ça permettra de voir des trous noirs beaucoup plus gros. J'ai pas donné de chiffres, mais les trous noirs qu'on voit actuellement, en gros, ils font quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Et ce que permettra de voir LISA, c'est des trous noirs qui font plutôt de l'ordre du million de fois la masse du Soleil, donc un peu semblable à ceux qui ont été imagés par EHT, le M87 et Sagittarius A-Star, celui qui est au centre de notre galaxie.
Voilà, et puis pour tout comprendre justement sur ce nouvel observatoire spatial des trous noirs supermassifs, c'est LISA. LISA va plus loin. Je vous invite à podcaster notre podcast. Merci à vous quatre. Je passe la parole dans quelques instants à Alexandre Morales, mais petite annonce, Pint of Science, l'édition 2025 va avoir lieu du 19 au 21 mai. Alors attention, la billetterie sera ouverte le 14 avril et attention parce qu'en général, ça part très vite.
Oui, ça part en quelques heures. Donc, là, le programme est en ligne, donc vous avez le temps de choisir vos événements, mais lundi 14 avril...
À vos clics.
Ouais, voilà.
On vous a posté évidemment tous les liens pour bien prendre rendez-vous. Et tout de suite, la chronique avec science et la découverte d'une nouvelle molécule antibiotique.
Où trouver les antibiotiques de demain? C'est dans les échantillons du jardin d'un de ces techniciens de laboratoire qu'une équipe canadienne a fait la découverte d'un nouvel antibiotique. Ils présentent leurs résultats dans la revue Nature. Alors, depuis la découverte des antibiotiques au siècle passé, ces molécules ont été et sont encore énormément utilisées, que ce soit bien sûr en santé humaine, mais aussi dans l'agriculture en particulier intensive. On sait maintenant que cet usage démesuré des antibiotiques a conduit les bactéries pathogènes à développer des résistances aux molécules. molécules dont nous disposons actuellement, les rendant de moins en moins efficaces. Ce phénomène qu'on appelle l'antibiorésistance présage d'une véritable crise sanitaire qui devrait survenir dans les années à venir. L'OMS la considère même comme une menace existentielle pour l'humanité. Et certains chercheurs estiment qu'aujourd'hui, près d'un million de personnes décèdent chaque année des conséquences de cette antibiorésistance. Vous l'aurez compris, il est donc essentiel de trouver de nouvelles molécules. Vincent Libis est chercheur à l'INSERM. Il dirige une équipe qui tente justement de découvrir de nouveaux antibiotiques efficaces contre les bactéries multirésistantes.
Il y a plusieurs axes de recherche qui donnent un peu d'espoir, même si ça avance doucement. Et un des axes auxquels, par exemple, mon labo contribue et le laboratoire qui est auteur de cette étude contribue également, c'est d'essayer de trouver des molécules naturellement produites par des bactéries qui ont des propriétés antibiotiques. Donc, en fait, c'est les bactéries qui fabriquent des molécules de défense pour tuer d'autres bactéries et découvrir ce type de molécules pour les utiliser en clinique contre les bactéries pathogènes de l'homme. La grande majorité des antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui en clinique proviennent en fait de la nature, donc principalement d'autres micro-organismes, d'autres bactéries, d'autres champignons aussi, comme la pénicilline, qui était le tout premier utilisé massivement. Et on a longtemps cru qu'on avait épuisé cette source de molécules naturelles, qu'il n'y avait plus rien à trouver. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en fait, il reste énormément de choses cachées dans la nature.
Et même dans des endroits aussi communs qu'un simple jardin. Alors évidemment, le processus n'est pas si simple. Ici, les scientifiques ont travaillé sur un temps long, puisqu'ils ont mis en culture les bactéries trouvées dans le sol, non pas pendant quelques jours, comme on le fait habituellement, mais durant plus d'une année. Et de cette manière, ils ont permis aux bactéries à croissance très lente de se développer. Ensuite, ils ont extrait une sorte de jus de molécules sécrétées par ces bactéries pour le tester sur des pathogènes. Ils se sont rendus compte qu'une molécule en particulier, la lariocidine, était très efficace pour bloquer la croissance de la plupart des bactéries dangereuses pour l'humain. Puis, ils ont fait tout un travail pour comprendre le mécanisme d'action de cette lariocidine. Alors, ils ont testé tous les modes d'action connus pour nos antibiotiques usuels, mais aucun de ces tests ne donnait de résultats probants. Il s'agissait donc probablement d'un nouveau mécanisme antibiotique inconnu à ce jour. Alors, comment cette molécule fonctionne-t-elle ? Elle s'attaque au ribosome. C'est une machine moléculaire qui permet de décoder l'information génétique pour, à partir de ça, fabriquer des protéines. Lorsque la lariocidine se fixe sur le ribosome bactérien, elle l'empêche de lire correctement le code génétique, ce qui donne des protéines non fonctionnelles et qui entraîne in fine la mort de la bactérie. Le petit plus avec cet antibiotique-là, c'est qu'il vise une partie du ribosome qui est codée par plusieurs gènes identiques de la bactérie. Elle aura ainsi du mal à muter toutes ses copies en même temps, ce qui rend le phénomène d'antibiorésistance beaucoup plus dur à mettre en place.
C'est un antibiotique qui est actif contre les bactéries les plus difficiles à éliminer. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant dans l'étude. Le fait qu'il y ait un nouveau mode d'action potentiellement avec moins de résistance associée, c'est aussi fort, voilà, puisqu'il cible l'ARN ribosomique qui a plusieurs copies. Le fait qu'ils aient des données chez la souris qui ont l'air plutôt positives pour l'instant, c'est aussi un bon signe. Et voilà, l'ensemble de ces éléments, ça en fait une découverte assez rare et donc assez remarquable. Et la petite touche finale, c'est que ça provient du coup du jardin du technicien de laboratoire et donc que finalement, avec les bons outils et avec en s'armant de patience, on peut trouver des solutions dans la nature. Il reste encore beaucoup de nouveaux mécanismes d'action à découvrir dans la nature.
On ne sait pas encore si cette molécule passera toutes les étapes pour arriver en soins cliniques, mais cette étude nous donne bon espoir de trouver de nouveaux antibiotiques à utiliser toujours avec parcimonie.
Merci Alexandre Morales pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Céline Lozen, Lou Anger, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.